La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas.
Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu.
Je considère ce chapitre 19 de ce livre du Lévitique comme étant en quelque sorte le sermon sur la montagne de l'Ancien Testament. Ce qu'on peut y trouver est assez extraordinaire. C'est notamment dans ce chapitre que l'amour du prochain est demandé. Vous savez que Jésus s'inspire de l'Ancien Testament quand il donne son commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Et là, il ajoute, comme je vous ai aimé. Mais Israël a dû apprendre à aimer son prochain, y compris le pauvre, y compris le faible, l'impuissant, et en particulier l'étranger. Parce qu'Israël a toujours dû se souvenir qu'il a été lui-même un étranger dans le pays d'Égypte. Et cela pendant plusieurs siècles. Oui, merci. Première diapo, celle d'avant. Voici le titre du message que j'apporte aujourd'hui. Moissonneur selon le cœur de Dieu. Vous avez remarqué que dans le verset 9, qui nous a été lu par Léonore, eh bien, Dieu fait une demande particulière aux moissonneurs israélites. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, et là on passe du « vous » au « tu », parce que c'est à chacun de faire l'effort, un effort de générosité, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner. Tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Autrement dit, les épis tombés à terre. Alors, en ce temps-là, comment se passait la moisson? Bien, un petit peu comme à l'image. C'est-à-dire, la première image, vous voyez deux hommes qui moissonnent avec des outils rudimentaires, hein, que sont la faux et la faucille. Et là, sur cette deuxième image, vous voyez donc des personnes qui portent les gerbes. Imaginez le travail que ça représentait. Aujourd'hui, vous voyez passer les moissonneuses-batteuses. C'est impressionnant. Elles prennent toute la chaussée, souvent, quand elles circulent. Elles sont précédées d'une estafette avec un gyrophare. Bref, et quand elles passent sur les blés, eh bien, elles coupent tout à ras. Et aussitôt, les grains sortent et tombent dans une benne. Alors, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on pouvait vivre à l'époque, au temps de la moisson. C'était une fête, en quelque sorte, qu'on vivait en famille ou dans le clan, parce qu'il fallait beaucoup de main-d'œuvre. Alors, vous les voyez là porter les gerbes après les avoir coupé à la faux ou à la faucille, et puis sur la diapo suivante, eh bien, après la séquence suivante, c'est le battage du blé. Alors là aussi, c'est très physique avec le fléau. Moi, je me souviens de mon grand-père qui avait un fléau dans sa grange. Et toujours, c'est un instrument qui m'a toujours fasciné. Voilà, donc on s'en servait pour frapper l'épi et faire sortir le grain. Alors, vous imaginez que quand le grain est passé au travers des tiges et qu'il est tombé sur l'aire de battage, eh bien, il faut encore enlever la paille qui est par-dessus. Beaucoup de travail. Croyez-moi, en ce temps-là, on appréciait le pain, un peu plus qu'on ne peut l'apprécier aujourd'hui. Le pain est tellement courant, tellement commun, il est partout. Parfois même, il dessèche dans nos paniers à la maison. On en a trop, on le jette. Je crois qu'en ce temps-là, on pouvait apprécier la valeur de chaque grain de blé. Parce que on avait transpiré, on avait produit des efforts remarquables pour obtenir tout d'abord du grain, séparé de la balle, parce qu'après il fallait encore séparer de la balle avec des tamis, et puis finalement faire de la farine. Toute une industrie auquel on se dévouait pendant des jours et des jours. L'image suivante nous montre un petit peu ce que Dieu a voulu dire. Est-ce que quand il demande à son peuple, et en particulier aux moissonneurs, donc comprenez, ce sont tous les membres des familles. Hein, qui est-ce qui participe à la moisson? Ce n'est pas juste un riche propriétaire de terrain. C'est-à-dire, non, ce sont les familles qui s'unissent pour moissonner. Donc tout le monde est impliqué, y compris les enfants. Parce que si... pouvait, à partir d'un certain âge, utiliser la faucille, pouvait aussi ramasser les épis de blé, etc. Donc tout le monde s'impliquait. Mais Dieu, ce qu'il a demandé, c'est de ne pas moissonner son champ jusqu'au bord. C'est vrai que la traduction second 1910, porte une version différente. Elle dit « laisse un coin de ton champ ». En réalité, quand vous lisez l'hébreu, la meilleure traduction, c'est, vous trouvez dans la Nouvelle Bible Second, ou la Bible français courant, « Ne moissonne pas ton champ jusqu'au bord. Laisse une partie à l'extérieur de ton champ. » Voilà ce que Dieu demande. L'image suivante me dit quoi? Eh bien donc, qu'il y a une partie du champ qui me revient, qui revient au propriétaire. Alors, propriétaire, soit au singulier, soit au pluriel. Hein. En tout cas, à la famille ou au clan qui possède le champ et qui l'exploite. Et puis, il y a une partie du champ qui doit être laissée aux autres. Ça, c'est ce que Dieu demande. Je trouve que Dieu a une attention vraiment particulière pour les autres. Ceux qui ne sont pas propriétaires de leurs biens. Ceux qui dépendent en quelque sorte de la générosité des plus riches. Image suivante. Vous avez un verset dans la Bible qui dit ceci. Il est à l'écran. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 3 et au verset 9. Vous êtes le champ de Dieu. Ah. Vous êtes le champ de Dieu. Alors, vous, dans le contexte, c'est l'Église. Parce qu'il ajoute aussi l'édifice ou la construction de Dieu. Mais restons-en au champ. Vous êtes le champ de Dieu. Donc, en tant qu'Église, nous sommes le champ de Dieu. Mais on peut dire que chacun a sa parcelle. Chacun a sa part à faire. Chacun doit moissonner une partie de ce champ. Donc on pourrait dire aussi que ce champ représente à la fois ce que nous faisons en tant qu'Église, mais aussi à ce que fait chaque membre en tant que disciple et témoin du Christ. Donc, nous sommes le champ de Dieu, mais toi, moi, chacun pour sa part est le champ de Dieu. D'accord? L'image suivante nous explique que ma vie est ici représentée par un champ. Et ce champ, on peut dire qu'il occupe trois dimensions, trois plans. Parce que la vie, justement, se développe sur trois plans. Il y a celui de l'avoir. Il y a celui du faire et il y a celui de l'être. Ça va? Je suis là sur des lieux communs. L'avoir, ça c'est représenté par quoi aujourd'hui? L'argent. Money. et bien sûr, tout ce qu'on peut se procurer avec de l'argent. Les biens matériels. Quant au faire, je pense qu'il est rattaché au temps. On peut faire des choses parce qu'on a le temps de le faire. Quand on n'a pas le temps, on ne fait pas. Quand on a le temps, on fait. Donc c'est le temps qui permet de faire. C'est dans le temps que j'accomplis des projets. C'est dans le temps que je développe ma personnalité. C'est dans le temps que je me projette. Et puis, il y a ce que je suis à tout moment. Il y a moi, avec mon avoir et mon faire. Il y a ma personne, ce que je suis. Et vous voyez, ce champ dont Dieu nous parle ici représente à la fois ce que j'ai, une richesse matérielle, ce que je fais dans le temps qu'il m'est donné. Vous savez, une vie, c'est court. Alors, Dieu nous demande de racheter le temps, de ne pas perdre le temps, de ne pas le gaspiller. Et puis, il y a moi, ma personne, ou pour être un peu plus précis, mon caractère, ce que je deviens au cours du temps, et ce que je fais aussi avec ce que j'ai, eh bien, exprime qui je suis, mon caractère. Tout cela est lié, c'est moi, avec ce que j'ai, ce que je fais, ce que je suis. C'est mon champ. Et Dieu me demande de ne pas moissonner mon champ jusqu'au bord. Donc, d'en laisser pour les autres. Vous me suivez? Alors, image suivante. Qu'est-ce que je fais avec mon argent? C'est une des dimensions de la vie, les choses matérielles. Est-ce qu'il y en a pour les autres aussi? C'est la volonté de Dieu qu'une partie de mon argent, eh bien, soit laissée aux autres. Que je ne gère pas tout mon argent, mais que j'en laisse une partie aux autres. À commencer peut-être par Dieu lui-même. L'image suivante dit quoi? Que Dieu, quand il me demande d'être libéral avec mon argent, eh bien, m'invite à sortir de la mentalité du pauvre, entre guillemets. C'est-à-dire celui qui dit qu'il ne peut rien donner parce qu'il n'a rien. C'est le mauvais pauvre, hein, parce que sachez qu'en réalité, et je suis sûr que si Mario Oliveira était là, il me dirait, mais attention, on le sait, les pauvres sont les plus généreux. C'est vrai. Mais là, on parle d'une mentalité de pauvre, de celui qui dit qu'il ne peut pas donner. Dieu nous demande, image suivante, d'être généreux. Tout d'abord, en rendant la dîme. C'est une forme de générosité, même si certains vont dire, attention, cette part-là appartient à Dieu, nous ne devons pas y toucher. Mais, lorsque nous versons un dixième de nos revenus, de tous nos revenus, au trésor du temple, eh bien, nous permettons à d'autres de travailler dans le champ du Seigneur. Nous soutenons ses serviteurs à plein temps. Nous encourageons la mission. Nous sommes généreux pour Dieu. Nous sommes heureux de voir que nos lignes avancent, que nous avons des projets et que, par la grâce de Dieu, eh bien, ces projets portent des fruits. Oui, tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence. J'ai volontairement choisi ce verset parce qu'il y a un lien avec le champ et la moisson. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Donc forcément, c'est pour dire que tout appartient à Dieu, mais concrètement, eh bien, Dieu souhaite que je lui laisse une partie de ce qu'il me donne à gérer pour que lui en fasse ce que bon lui semble et que d'autres le gèrent à ma place sans que je leur demande forcément de rendre des comptes. Ils ont des comptes à rendre à Dieu, ceux qui gèrent cet argent. Mais Dieu me dit, fais-moi confiance parce que j'ai besoin de cet argent aussi, de cette valeur matérielle. Oui, tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que te rapportera ton champ chaque année. Bon, il y a beaucoup d'autres textes qui vont dans ce sens. Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Voilà. Et des exemples bibliques ne manquent pas. Il y a bien sûr les dîmes, mais les dîmes ne sont qu'une partie de ce qui peut être laissé et ce qui doit être laissé, selon le plan de Dieu, aux autres. Il y a bien sûr aussi toute cette liberté qui nous est donnée de soutenir le frère, la sœur en difficulté, de soutenir les œuvres caritatives, d'encourager ceux qui sont dans les difficultés en leur apportant aussi de la nourriture. Et je suis heureux de cette initiative qui a été prise de faire un arbre de Noël avec des denrées alimentaires pour dire, ben, Noël, c'est une fête de la générosité. À Noël, on donne parce que Dieu s'est donné et on soutient ceux et celles qui ont besoin de notre aide. Mère Teresa, vous connaissez cette femme qui a fait beaucoup de bien auprès des pauvres et qui s'est dévouée toute sa vie pour justement les plus démunis de notre planète, dit ceci. Un soir, un homme est venu à notre maison pour nous dire qu'il connaissait une famille de 8 enfants qui n'avait pas mangé depuis plusieurs jours. J'ai donc pris un sac de provisions et je suis allé les voir. À mon arrivée, j'ai vu tout de suite sur les visages des jeunes enfants défigurés par la faim qu'ils n'avaient pas mangé depuis plusieurs jours. Mais il n'y avait aucune tristesse au fond de leurs yeux, juste la douleur de la faim. Alors j'ai donné un sac de riz à la mère. Elle en a gardé la moitié. Elle a gardé la moitié avant de sortir en emportant le reste. Donc elle a moissonné que la moitié de son champ. Elle a laissé tout le reste à qui ? Eh bien, quand elle fut de retour, je lui ai demandé, mais où êtes-vous allé ? Elle a répondu, chez mes voisins, ils ont faim eux aussi. Et Mère Teresa ajoute, je n'ai pas été étonné qu'elle ait donné un peu de sa richesse nouvelle, car les pauvres sont habituellement très généreux. Mais j'ai été étonné qu'elle ait su qu'ils avaient faim. En règle générale, lorsque nous souffrons, nous sommes tellement obnubilés par nos propres problèmes que nous ne nous occupons plus de ceux des autres. C'est incroyable. Vous connaissez John Wesley ? Ça remonte un peu, hein ? C'est un pasteur du, je ne vais pas dire de bêtises, 18e siècle, qui est à l'origine du mouvement méthodiste, dont sont issus la plupart des premiers adventistes. Le méthodisme a beaucoup influencé l'adventisme. Cet homme était totalement dévoué à la cause évangélique et il était très généreux. J'ai découvert cela au cours de mes lectures. John Wesley non seulement prêcha sur l'importance de la générosité, mais donna tout au long de sa vie l'exemple d'une générosité extrême. Étudiant, il découvrit au centre de la ville une prison où étaient incarcérés des hommes qui n'avaient pas pu rembourser leurs dettes. Avec d'autres étudiants, il s'engagea à collecter des fonds pour racheter la liberté du plus grand nombre d'entre eux. Et devenu relativement riche grâce aux livres qu'il écrivait, il prit l'habitude de distribuer la quasi-totalité de ses revenus aux plus démunis, ne gardant pour lui-même que le strict minimum. Et un jour, il a écrit sans ironie, « Ne suis-je pas libre de dépenser comme je veux mon argent, direz-vous ? Mais nous voilà au cœur d'un mensonge. Cet argent ne vous appartient pas et ne peut jamais devenir vôtre, à moins, bien sûr, que vous ne soyez le seigneur de la terre et du ciel. » Il avait conscience que son argent, eh bien, ne lui appartenait pas. Et un autre auteur a ajouté, un certain Ravi Zacharias, « Réserver le meilleur pour soi-même et donner les miettes à Dieu ou aux autres, cela revient à blasphémer. Celui qui adore vraiment est celui qui donne à Dieu le meilleur de son temps et de ses biens. » Oui, Dieu, en nous laissant cette prescription de ne pas moissonner notre champ jusqu'au bord, eh bien, veut nous enseigner à sortir, veut nous entraîner à sortir de cette mentalité étriquée dans laquelle on considère que, eh bien, tout nous appartient. Et puis, il y a le temps. Il y a le temps dans lequel je déploie ce que je fais, mes activités. Image suivante. Le Seigneur veut aussi que je consacre une partie de mon temps aux autres. D'ailleurs, c'est là un critère. Lorsque Jésus revient, il demandera aux hommes et aux femmes, réunis en sa présence, qu'avez-vous fait de votre temps? Où êtes-vous allé? Qu'est-ce qui vous a occupé entre mon départ et mon retour? Et le Seigneur veut nous faire sortir de la mentalité du bourreau de travail. Vous voyez, celui qui est tout le temps pressé, qui a un tas de choses à faire, qui regarde tout le temps sur sa montre et qui n'a pas de disponibilité aux autres, qui ne peut pas s'arrêter un instant pour parler, pour converser, pour rire, pour regarder tout simplement peut-être quelqu'un qui est dans l'attente de quelque chose et comprendre sa situation. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important que la Bible souligne dans ce verset. Laisser du temps, une marge suffisante pour faire autre chose que bosser, bosser et bosser. Courir et encore courir, les yeux rivés sur le chronomètre. Le texte biblique dit ceci, Romains 15, verset 7, « Accueillez-vous les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Parfois, ça peut se vivre dans le métro, dans un train, dans un hall de gare, comme ça, dans la rue. Est-ce que je suis encore capable de m'arrêter pour parler avec un passant, avec un mendiant? Est-ce que je suis capable de lever les yeux, de les détacher de mon livre, de mon fichier Excel, peu importe, pour parler à la personne qui est assise en face de moi, qui peut-être visiblement cherche à entrer en communication avec moi, ou qui aurait besoin d'aide, ou qui est stressé et qui n'attend qu'un sourire pour la détendre. Accueillez-vous les uns les autres, dans l'église certes, mais aussi partout où nous allons, sur les chemins de ce monde, savoir accueillir l'autre. C'est laisser une partie de son champ libre pour quelqu'un d'autre. Le voisin est en train de balayer ses feuilles, les feuilles devant la porte de sa maison, devant son portail. Eh bien, c'est l'occasion de le rencontrer, d'échanger quelques paroles de sympathie. C'est ça aussi, savoir accueillir l'autre. C'est très important. Et puis, il y a cette troisième dimension, image suivante, qui est la personne que je suis. Qu'est-ce que je fais avec qui je suis? Et là aussi, le Seigneur me dit, ne moissonne pas ton champ jusqu'au bord. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Ne pas moissonner son champ jusqu'au bord. C'est que dans la vie, eh bien, ceux qui s'en sortent le mieux, ce sont ceux qui savent se rendre disponibles. Ce sont ceux qui arrivent à donner, pas seulement ce qu'ils ont matériellement, mais aussi ce qu'ils sont. Et ça, c'est une grande richesse, peut-être la plus grande. C'est ce que nous sommes, nos talents, nos capacités personnelles. Et donc, le Seigneur nous invite. Ça va? Petite est tombée. Elle ne pleure pas. Le Seigneur nous invite à sortir de la mentalité que j'appellerais de la victime. Nous avons vu qu'il nous invite à sortir de la mentalité du pauvre, donc celui qui a un cœur pauvre, la mentalité du bourreau de travail, mais aussi la mentalité de la victime. Je suis un grand malheureux et je me plains. On ne s'intéresse pas à moi, on ne m'aime pas, on me vole mon argent, on me persécute. Vous voyez ? La mentalité de la victime. Alors bon, là, je vous présente le fameux triangle dramatique dit de Cartman, que les psychologues connaissent bien. La victime est en haut, c'est la personne qui se plaint, qui subit, qui s'apitoie sur son sort. Je me souviens que j'avais moi-même cette tendance pendant un certain temps. Régulièrement, eh bien, je me plaignais de ma situation, de mon triste sort. Et j'avais des raisons. Et je me souviens qu'un jour, mon épouse m'a dit, mais arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. Et un jour, ça a fait tilt. Et je me souviens, j'en ai fait un vœu de nouvel an. À partir de cette année, à partir d'aujourd'hui, je vais lutter contre cette mentalité-là, la mentalité de la victime. Je ne veux plus me plaindre. S'il y a une difficulté, je vais la surmonter par la grâce de Dieu. Et Dieu va m'en donner la force. Et effectivement, Dieu a, au fil des années, a fortifié mon mental. Parce que j'ai décidé de ne plus être victime. C'est jamais facile. Mais plus vous vous plaignez, plus ce sera difficile. Plus ce sera pénible. Plus vous serez chargé. Plus vous serez déprimé. Et plus vous vous enfoncerez. Alors Dieu veut nous faire sortir la mentalité de la victime. Et il nous dit, maintenant il faut aller vers les autres. Vous savez comment on guérit quelqu'un qui se recroqueville sur lui-même, hein? C'est en créant du contact, en créant du contact pour lui, c'est-à-dire en le regardant, lui parlant, le mettant en contact avec d'autres personnes. Sortir de la mentalité de la victime. Parce qu'après, il y a le fameux cercle vicieux, la victime trouve toujours un persécuteur, toujours. Et puis, il y a un sauveur aussi qui va essayer, tant bien que mal, plutôt mal que bien d'ailleurs, de tirer la victime de sa situation. Le texte suivant, tiré de la Bible, nous dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur, littéralement c'est le même verbe, sois vainqueur du mal par le bien. » Et ça, c'est aussi d'une certaine façon, sortir de l'univers, son univers nombriliste, pour aller vers l'autre, sortir de sa propre, quitter sa propre souffrance, son propre malaise, en soulageant le prochain. Et il y a un texte qui accompagne celui-ci, que je ne vais pas mettre à l'écran, mais qui dit, ne rendez pas mal pour mal ou injure pour injure. On vous fait mal? On vous exploite? Eh bien, qu'importe. On dit quelque chose qui ne ferait pas plaisir, on vous a critiqué? Qu'importe. Bénissez, dit le texte, au contraire. Ne vous plaignez pas, bénissez. C'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. C'est dans 1 Pierre 3, verset 9, un très très beau verset. Surmonter le mal par le bien. Surmonter ces états d'âme qui nous tirent vers le bas par une volonté d'aller vers l'autre. Donner de soi-même à l'autre. Encourager l'autre. Faire du bien à l'autre. Le Seigneur nous a donné une individualité. Il faut l'utiliser. T'es électricien ? Ben, va rendre service à ton voisin qui a des problèmes avec son disjoncteur. Je dis ça comme ça, c'est très simple. Tu sais, je sais pas moi, tu sais repasser, tu vois que la pauvre jeune maman d'à côté, elle n'en peut plus parce qu'avec ses enfants. Eh bien, propose-lui de lui faire un panier. Vous voyez ? Donne. Et tu seras de plus en plus heureux. Plus tu vas donner, plus la marge va augmenter de ton champ pour les autres. Et curieusement, plus tu seras riche, plus tu seras heureux. Quel est le pire ennemi du bonheur ? C'est l'égoïsme. Alors, vous savez, Dieu veut nous libérer de l'égoïsme. C'est pour ça qu'il nous dit, mais laisse une marge. Et vous avez remarqué, il n'a pas mesuré, il n'a pas dit combien. C'est pour que tu puisses augmenter cette marge au cours du temps. Est-ce que les retraités ont plus de marge que les... Non, chacun doit pouvoir définir une marge pour les autres. Mais oui, il y a des moments où on en a plus, c'est vrai, dans la vie, il y a des moments où on en a moins pour les autres. Parce que parfois, on est concentré vraiment sur son couple, on doit travailler à de bonnes relations au sein du couple. Après, il y a un temps où on s'occupe beaucoup de ses enfants, surtout quand ils sont petits. Puis il y a peut-être un temps où on a encore plus de temps pour d'autres personnes, à l'extérieur de la famille, dans l'église, etc. Selon les conditions que Dieu place autour de nous. Mais vous voyez, l'égoïsme, c'est quoi ? C'est l'attachement excessif à soi-même qui fait que l'on recherche exclusivement son plaisir et son intérêt personnel. Et là, il y a deux citations qui suivent. Alors, un texte qui dit qu'à la fin des temps, les hommes seront égoïstes. Donc, ce texte du Lévitique vaut encore pour aujourd'hui. Comment tu moissonnes ton champ ? Comment tu gères ta vie ? Qu'est-ce que tu fais avec ton avoir, ton faire et ton être ? Avec ton argent, ton temps et ta personne ? Qu'est-ce que tu fais ? Vous savez que Dieu demandera des comptes. Je n'ai pas envie de vous faire peur, ce n'est pas le but, mais j'ai plutôt envie de vous encourager dans cette dynamique du partage et trouver ça vraiment chouette, vraiment bien. C'est-à-dire ça vaut la peine parce que ça donne du sens à la vie. Oui, nous sommes dans un monde où l'égoïsme prévaut. Mais l'égoïsme est la plus grande malédiction de la race humaine. William Gladstone. Il résume la pensée de Jésus et des apôtres. C'est la plus grande malédiction de la race humaine. Et l'autre citation qui suit, l'égoïsme, c'est le pire ennemi du bonheur. Le pire ennemi. Parce que plus je m'ouvre aux autres et plus je reçois, plus je me sens, je sens que j'existe. Et je sens que ma vie a de la valeur. Et vous savez, ce sont les gens qui sont les plus tournés vers les autres, qui vivent le plus longtemps aussi. Justement, ceux qui combattent cette mentalité terrible, du tout pour soi. Que ce soit le bourreau du travail, ou que ce soit les autres personnes, la victime, ou le pauvre. Donner, il vous sera donné. Oui, Dieu veut élargir nos cœurs et nous rendre généreux. C'est ça son projet, nous rendre vraiment généreux. J'aimerais terminer par une jolie histoire. C'est raconté par Dan Clark. C'est un souvenir de son enfance quand son père avait décidé de l'emmener au cirque. Alors voilà, on reste sur cette image. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Il va au cirque avec son père. Et ils venaient de se joindre à la queue pour acheter leurs billets quand ils remarquèrent juste devant eux une famille d'apparence pauvre. Les parents se tenaient la main entourés d'une marmaille de 8 enfants, encore, dont l'aîné ne semblait pas dépasser 12 ans. Voilà, on pourrait se plaindre, qu'est-ce qu'ils viennent faire là ? Oh, ils nous embêtent, qui sont ces gens-là avec autant d'enfants ? Probablement les gens du voyage. On pouvait deviner que cette visite au cirque constituait pour eux une aventure exceptionnelle. Quand arriva leur tour, le guichetier leur demanda combien de billets ils voulaient. à la famille. Hein. Et le père de famille répond fièrement, je voudrais 8 billets pour enfants et 2 billets pour adultes, s'il vous plaît. Mais quand le guichetier indiqua le prix total, ouf, la femme laissa tomber la main de son mari et baissa la tête. Elle comprit, il n'avait pas assez. Alors l'homme se pencha vers le guichet et demanda, pardon, vous avez dit combien ? Et le guichetier répéta le prix. L'homme n'avait à l'évidence pas la totalité de la somme. Il paraissait abasourdi, incapable de réagir et n'avait même pas la force de repousser chemin. Et là, Dan Clark raconte que son père, qui n'avait rien perdu de la scène, enfonça soudain la main dans sa poche et en sortit un billet qu'il laissa tomber par terre. Puis il se pencha, ramassa le billet avant de taper sur l'épaule de l'homme pour lui dire « Excusez-moi, monsieur, je crois que ce billet vous appartient. » Et l'homme se rendit tout de suite compte de ce qui venait de se passer. Il regarda le père de Clark droit dans les yeux, prit sa main pour la serrer très fort, avec une larme dans le regard, et murmura « Merci, monsieur. Merci beaucoup. Vous ne savez pas ce que cela signifie pour moi et ma famille. » Clark et son père repartirent vers leur voiture pour rentrer chez eux. Ils n'avaient plus assez d'argent pour assister au spectacle ce soir-là. Mais cela n'avait pas d'importance. Une famille avait été bénie par eux, et ni l'une ni l'autre de ces deux familles n'oublierait jamais cet incident. Voilà ce que signifie faire du bien sans rien attendre en retour. Voilà ce que signifie moissonner son champ comme Dieu le souhaite. Image suivante. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu que chacun de vous mette au service des autres ce qu'il a reçu. Avance. Encore. Dieu aime celui qui donne avec joie, sans contrainte, librement. Parce que lui-même, Dieu a donné. Vous avez une image dans la Bible, vous trouverez Boaz. Boaz, c'est un homme qui a moissonné comme Dieu l'a voulu. Et Boaz veut dire, en lui la force. Et ce sont des gens forts qui sont capables de partager ce qu'ils ont reçu, forts de l'amour de Dieu. Boaz est devenu l'ancêtre du Messie, parce qu'il a été généreux, de la générosité de Dieu. Ce Dieu qui a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Que le Seigneur puisse vous bénir et vous aider à moissonner comme il moissonne lui-même, avec beaucoup de générosité. D'ailleurs, vous savez, Dieu a laissé tout son champ à notre disposition. Amen.